Espace 2.
Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, il est devenu presque impossible d'ignorer le lancement de ce film. A Vue d'Esprit vous propose une série d'émissions autour du monde de C.S. Lewis, de ses traducteurs, de ses fans et de ses interprètes.
A Vue d'Esprit.
Monsieur, bonjour. Michel Cochet au micro, Marie-Claude Cudry à la réalisation pour cette édition d'A Vue d'Esprit. Le film de Disney de Noël sort aujourd'hui dans les salles de Suisse romande. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique va sans nul doute faire affluer dans les cinémas petits et grands en recherche de moments magiques devant le grand écran, surtout en cette période de fin d'année. Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors vous nous proposez un pas de côté par rapport à ce film de Disney. Vous nous invitez, comme vous avez déjà fait au début de cette semaine, à découvrir C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia, ses récits pour enfants, dont l'un inspire directement ce Disney de Noël.
Oui, Michel, la sortie d'un film Disney se double systématiquement de toutes sortes de produits dérivés. Alors, il y a toutes sortes de gadgets qu'on voit actuellement sur le marché, mais il y a aussi des livres qui invitent soit à lire C.S. Lewis dans le texte, soit à découvrir son monde ou sa pensée. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Irène Fernandez. Elle est professeure en retraite et elle est aussi philosophe.
Alors, ce n'est pas un gadget dans ce cas-là, parce que c'est une thèse. Elle publie un livre cette fin d'année.
Oui, l'ouvrage s'intitule C.S. Lewis, mythe, raison ardente. Et il est assez imposant.
Oui, c'est impressionnant.
Puisqu'il fait plus de 500 pages, ou pas loin de 500 pages. Et en fait, comme vous venez de le dire, il s'agit d'une thèse de doctorat qui a dormi pendant plusieurs années dans un tiroir et qu'un ami a encouragé Irène Fernandez à ressortir à l'occasion de la sortie de ce film. Et c'est vrai que c'est intéressant, en tout cas, d'entrer dans ce monde de C.S. Lewis au travers du regard d'une philosophe.
Alors, on va vous suivre, Serge. Vous avez rencontré Irène Fernandez à Paris.
Oui, et pour ouvrir cette émission, je lui ai demandé tout d'abord de nous faire une sorte de portrait de la personne de C.S. Lewis.
C.S. Lewis était, puisqu'il est mort en 1963, relativement jeune, il avait à peine, il allait avoir 65 ans, c'était un universitaire anglais d'un modèle tout à fait traditionnel à l'époque, exactement comme son ami Tolkien d'ailleurs. Il a fait toute sa carrière à Oxford d'abord, à Cambridge ensuite. Il a enseigné professionnellement alors la littérature médiévale et renaissante. D'autre part, il a écrit, à partir du moment surtout où il est devenu chrétien, car il ne l'était pas à l'origine, il s'est mis à écrire aussi bien une sorte de théologie, je ne sais pas trop comment la préciser, peut-être qu'on aura l'occasion de le faire, une sorte de théologie populaire et puis une œuvre imaginative très importante, tout en continuant son œuvre professionnelle, puisqu'il y a beaucoup de publications de lui dans cet ordre-là.
Donc on a chez lui à la fois le côté professeur qui publie des critiques savantes et en même temps quelqu'un qui donne dans le conte d'enfant.
Oui, mais vous savez, le conte d'enfant, c'est d'ailleurs un genre littéraire qui a ses lettres de noblesse en Angleterre en particulier. Et il se trouve qu'à un certain moment de sa vie, Lewis a éprouvé le besoin, alors pourquoi, on n'en sait rien, d'écrire des contes pour les enfants. Mais il est loin de se réduire à un auteur pour enfants. Il se trouve qu'il a écrit un chef-d'œuvre dans ce domaine, si vous voulez, qui sont les chroniques de Narnia, qui d'ailleurs, comme on dit, on le disait, Tintin, ça vaut de 7 à 77 ans, puisque ça a aussi un public adulte. Mais c'était un homme, il le dit lui-même, que l'homme d'imagination était plus important en lui que tous les autres. Et donc, il éprouvait le besoin de s'exprimer dans ce registre.
C'est aussi quelqu'un qui, en Angleterre et dans le monde anglophone, a eu un impact tout à fait considérable, puisque aujourd'hui encore, ces chroniques de Narnia dont on parle, mais aussi d'autres textes, sont extraordinairement lus.
D'une part, il avait beaucoup de talent, et les chroniques de Narnia sont une œuvre extrêmement réussie, les autres aussi. Et d'autre part, il avait décidé, ça c'était un homme très pugnace, si vous voulez, qu'il fallait, dès qu'il est devenu chrétien, il s'est mis, je ne dirais même pas seulement à défendre le christianisme, mais à expliquer en quoi ça consistait. Et une bonne partie de son œuvre va dans ce sens, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a eu un succès énorme. Il y a aussi des gens qui sont tout à fait hostiles à ce qui... C'est un homme qui ne laisse pas indifférent, si vous voulez. Mais je pense que c'est ce deuxième aspect de son œuvre, si vous voulez, est très important.
Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que, en tout cas dans le monde francophone aujourd'hui, on découvre un Tolkien au travers du Seigneur des Anneaux, on découvre aussi C.S. Lewis au travers de ce film que Disney met actuellement sur le marché. Et ce sont deux auteurs que vous-même, vous avez passablement travaillé et qui se sont connus aussi l'un l'autre.
Oui, Tolkien et Lewis, c'est une des grandes amitiés littéraires, comme il en existe, si vous voulez. C'était deux professeurs d'Oxford, donc. Lewis n'a jamais été professeur techniquement parlant à Oxford, il l'a été à Cambridge. Et ça, c'est important parce que, enfin, c'est quand même un détail pour le public. Ils étaient amis alors que Tolkien était catholique. Et catholique à une époque où en Angleterre, ce n'était pas tellement bien vu, si vous voulez. C'était même pas bien vu du tout. Lewis est toujours resté anglican. Mais il est extrêmement proche de ce qui est l'essentiel de la foi pour tous les chrétiens sérieux, qu'ils soient, quelle que soit leur confession, si vous voulez. Alors, ces deux hommes étaient amis, et effectivement, c'est assez beau qu'on les redécouvre, je dirais presque ensemble.
En tout cas, dans le monde francophone.
Oui, ah ben bien sûr, parce qu'ils sont extrêmement connus et discutés dans le monde anglophone, mais ça, il y a un décalage énorme. Tolkien, bon, maintenant, est connu mondialement, mais Lewis est quand même un nom extrêmement connu dans le monde anglophone. Alors qu'en France et dans les pays de langue française, il est pratiquement inconnu.
Irène Fernandez, on connaît quand même un petit peu C.S. Lewis dans le monde francophone au travers d'un film qui lui a déjà été consacré. C'est un film qui s'intitule « Les ombres du cœur », mais un film qui ne donne pas, reconnaissons-le, une image très positive d'un C.S. Lewis.
Oui, c'est l'histoire de son mariage. C'est vrai que c'est un mariage assez étonnant puisqu'il était un petit peu le type du vieux garçon, si vous voulez. Et puis, il s'est marié sur le tard avec une femme qui avait deux enfants. Et cette femme souffrait d'un cancer et elle est morte après. Mais ils ont eu quelques années d'un très grand bonheur et d'un grand épanouissement pour Lewis. Et évidemment, sa mort a été un coup absolument terrible. Mais le film où il jouait, où c'était Anthony Hopkins qui jouait Lewis, il fait de Lewis une espèce de bonhomme empoté, un peu lugubre. Alors que tous les gens qui l'ont connu disent que c'était un homme très drôle, très bon vivant, si vous voulez. Il n'avait pas attendu de se marier pour être heureux et épanoui. Si vous voulez. Naturellement, son mariage l'a encore plus épanoui. Et en plus, c'était absolument... Ça faussait complètement les choses, je trouve. Et puis, on ne voit pas non plus dans ce film que lui et sa femme, d'ailleurs aussi, étaient d'une très grande intelligence. Et tout ce que Lewis, tout son christianisme se réduit dans le film à répéter toujours la même phrase qu'il avait écrite dans le problème de la souffrance, que la souffrance est envoyée par Dieu pour vous réveiller, etc. Ce qui est une chose un peu limitée et qui est loin d'être tout ce qu'il pense, ni même ce qu'il pense de plus intéressant. On aurait dit qu'il pensait que ça. Non, moi, ce film m'avait beaucoup déçu, je dois dire. D'ailleurs, ça n'a pas fait connaître Lewis, parce qu'on a dit un professeur anglais, vous savez. On n'a même pas fait le rapport ni avec Narnia, qu'on ne connaissait pas, ni avec une œuvre quelconque.
Dans votre livre, Irène Fernandez, vous dites que C.S. Lewis est avant tout un homme de l'imagination. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
J'entends une chose assez simple, qu'il entendait lui-même, d'ailleurs c'est lui qui le dit, à savoir que l'exercice de l'imagination, mais un exercice actif, consiste pas à rêvasser simplement, à avoir des fantasmes, des choses comme ça, un exercice actif de l'imagination, disons poétique ou littéraire, pour employer des mots un petit peu... qu'il faudrait préciser, était quand même le centre de sa vie intellectuelle. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que la vie intellectuelle était complètement, comment dirais-je, assumée par l'imagination ou réciproquement. Mais ce qui fait de lui, je crois, un cas très intéressant et quelqu'un qui a beaucoup à nous apprendre sur ce plan.
Ce qui est surprenant chez C.S. Lewis, c'est que, somme toute, sa carrière, entre guillemets, littéraire et sa carrière en imagination a commencé très très jeune.
En fait, Il avait bien écrit quelques poèmes. Il a fait la guerre de 14, était engagé volontaire, parce qu'il est irlandais, c'était un Irlandais de l'Ulster, et il n'était pas mobilisé. Mais lui, il pensait que c'était son devoir. Il a donc connu les tranchées de la guerre de 14. Il a écrit des poèmes de guerre.
Bon, est-ce qu'il n'avait pas déjà écrit une ou deux choses avant ?
Oh ben, il a commencé à écrire quand il était petit enfant, mais il y a des choses que l'on peut lire dans les choses qui ont été conservées par son frère, etc. Mais son premier livre, oui, il a écrit aussi un grand poème, une sorte d'histoire très compliquée auquel on ne comprend rien du tout, et qui a eu un succès d'estime, comme on dit. Mais son premier livre date du moment de sa conversion, où il est redevenu chrétien. Donc quand il avait déjà une bonne trentaine d'années, vous me direz c'est pas bien vieux, mais enfin c'est pas, vous voyez, celui qui écrit à 20 ans, etc. Et c'est entre 30 et 60 ans à peu près, enfin, ou 35 et 65 ans, qu'il a écrit une œuvre immense. Mais il était très précoce comme écrivain, comme beaucoup d'ailleurs de gens qui écrivent, ils aiment le langage, ils jouent avec les mots. Vous voyez, ça, beaucoup, on a beaucoup de témoignages sur des écrivains qui ont fait ça très jeunes. Mais au point de vue de l'œuvre et de l'œuvre vraiment accomplie, les premières œuvres accomplies de Loé, c'est quand même la trilogie.
La trilogie cosmique.
Oui.
Donc une œuvre de science-fiction qui paraît dans les années 30.
C'est ça. Et c'est de la science-fiction, en sens que le premier est en effet un voyage sur la planète Mars, le deuxième sur la planète Vénus, le troisième se passe sur Terre. Mais c'est quelque chose, maintenant c'est aussi relativement un classique de la science-fiction. Bien que ce ne soit pas de la science-fiction, mais à l'époque où Lewis a écrit, on ne distinguait pas encore science-fiction et ce qu'on appelle, d'un mot difficile à traduire en français, fantasy. Voyez, donc, en fait, c'est un genre où l'imagination se donne libre cours en sortant des confins terrestres, disons.
Donc lorsqu'on parle de C.S. Lewis comme un homme de l'imagination, il faut avoir à l'esprit que c'est à la fois quelqu'un qui a pu être à l'aise dans le monde de la science-fiction, mais aussi dans le monde de la création d'univers, de mythes pour les enfants.
Oui, il y a les fameuses chroniques de Narnia, dont je pense qu'on parlera pas mal à cause du film qui a été consacré la première d'entre elles, et qui est effectivement un univers extrêmement fort, puisque Narnia, c'est un pays, n'est-ce pas, les chroniques de Narnia. Et ce n'est pas Lewis qui a trouvé ce titre, mais tout le monde a fini par appeler les sept contes qu'il a écrits les chroniques de Narnia, puisque tout se passe dans le même monde imaginaire. C'est très, très célèbre. Le premier, d'ailleurs, on le verra dans le film, c'est une petite fille qui est évacuée pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup d'enfants de Londres ont été évacués pour échapper au bombardement. Et elle joue à cache-cache avec ses frères et sœurs, et elle entre dans une armoire, et elle écarte les manteaux qui sont dedans, et tout d'un coup, elle se retrouve c'est de la neige qui est sous ses pas, etc., elle se retrouve à Narnia. Mais vous savez, ce passage par l'armoire pour entrer dans un autre monde, c'est un thème mythique d'ailleurs, très important, parce que bon, c'est pas toujours une armoire, mais c'est devenu en anglais.
Oui, on peut penser à Alice au Pays des Merveilles, on peut penser à toutes sortes de fictions.
Oui, et puis de toute façon, pour entrer, il faut toujours un passage par où on sort de son monde pour entrer dans l'autre. Mais je lisais l'autre jour un article de vulgarisation scientifique sur les problèmes du temps et les paradoxes temporels. Oui, ça n'a rien à voir avec la science-fiction. Et puis pour illustrer ça, l'auteur disait, mais vous savez, c'est comme quand on entre dans l'armoire et qu'on se trouve dans un autre. Mais il n'a pas mis une note en bas de page pour dire de quelle armoire il s'agissait. Oui, c'était évident. Et ça, c'est ça, devenir un classique. Narnia, aujourd'hui, est, dans le monde anglophone, absolument classique. Que les gens, d'ailleurs, le lisent avec piété ou sans piété, ça n'a aucun rapport.
Et concrètement, là, lorsque cette petite Lucie, c'est bien ça, entre dans cette armoire, elle débouche sur un monde imaginaire qui véhicule quelles idées, quelles images, quelles saveurs ?
Écoutez, je crois d'abord que ça ne véhicule pas des idées. Bien sûr, Lewis avait beaucoup d'idées, j'ai dit tout à l'heure qu'il pensait tout le temps, mais d'autre part, il imagine, il crée, enfin, c'est un monde naturel, c'est un monde où il y a des forêts, c'est un monde où il y a des animaux qui parlent, mais ce ne sont pas des animaux anthropomorphiques, si vous voulez, ce sont vraiment des animaux, mais ils sont doués de paroles et de raisonnements, etc. Il y a des dryades, il y a toutes sortes de choses, mais Tolkien trouvait d'ailleurs que Lewis mélangeait un peu trop les mythologies. Mais Narnia, ce qui compte, c'est pas tellement tel et tel personnage. Ce qui compte, c'est Narnia. C'est vraiment une terre que l'on peut reconnaître, un univers que l'on peut reconnaître.
Et là, de manière intéressante, c'est un univers où il n'y a pas de véhicules, où il n'y a pas de ville. C'est un univers qui correspond un peu à la campagne britannique, avec passablement de verdure et des étangs et des régions un peu de ce type-là.
Ah oui, ça c'est sûr. Lewis partageait d'ailleurs avec Tolkien une sensibilité qu'aujourd'hui, mais il faut se méfier des mots qu'on appellerait écologiques, c'est-à-dire qu'il n'était pas hostile, bien sûr, aux bêtements, au progrès, à la science, etc., mais il pensait que la maîtrise de l'homme sur la nature, telle qu'on peut la voir à travers la technique, comportait de grands dangers. Et ça, il pensait ça à une époque où beaucoup de gens ne le pensaient pas encore. Voyez. Alors Narnia, évidemment, est un monde qui n'a pas connu la révolution industrielle, si vous voulez.
Et dans ce monde Narnia, il y a l'hiver. Et là, il y a toute une symbolique là derrière.
Ah oui, ça, dans le premier Narnia, Lucie débarque donc dans la neige et elle rencontre, et ça c'est l'imagination de Lewis, elle rencontre un faune qui se promène avec un parapluie et des paquets de Noël sous le bras, vous voyez. Et là, il ne faut pas chercher des idées, des allégories, etc. C'est une image comme ça. Quoique le faune représente évidemment aussi un aspect de la nature, de l'union avec la nature. Mais cet hiver de Narnia, c'est sûr qu'il a un côté symbolique, mais comme tous les hivers ou comme toutes les, comment dirais-je, toutes les images de glace. Dans le livre que j'écris, je parle à un moment de ces images de glace où on voit Satan dans le froid. Parce que nous, on voit les feux de l'enfer, mais c'est vrai que c'est aussi une autre image. Et tout ça, ce n'est que des images, bien sûr. Mais dans l'enfer de Dante, vous voyez, Satan est au fond d'un lac de glace. Dans le livre de Thomas Mann, Dr. Faustus, quand le héros a un rapport terrible, d'ailleurs, avec le démon, il a de plus en plus froid. Et ce froid représente ça, mais ça se trouve, c'est dans le premier Narnia. Après, c'est vrai que la présence d'Aslan fait fondre toute cette neige.
Irène Fernandez, de manière assez intéressante, vous-même dans votre livre, vous récusez le label allégorie pour caractériser ces chroniques de Narnia. Vous préférez parler d'un mythe. Pourquoi ?
Je ne pense pas que ce soit une allégorie. Si on prend le mot allégorie, ce sont des mots assez difficiles à manier, ça je le reconnais. Mais si on prend allégorie au sens strict, c'est-à-dire on a une idée ou des idées et on les habille, soit avec des symboles, soit même avec une histoire, etc. Ça peut faire, d'ailleurs, c'est un genre littéraire qui a eu beaucoup d'importance, mais qui suppose que les idées, l'ensemble des idées, préexistent à leur habillement, si vous voulez. Dans le mythe, tel que Lewis le comprend, mais aussi que beaucoup d'autres, ça n'est pas original, mais c'est important, dans le mythe, ce sont les images, et l'ensemble des images, le récit qui est donné d'abord. Et alors ce récit, s'il est mythe, il a du sens, éventuellement beaucoup de sens, mais il n'a pas un sens a priori qui serait le seul et l'unique. Tandis que si vous avez une allégorie, ben vous savez ce que vous avez mis dedans.
Donc vous-même, là, vous récusez toute lecture en brin catéchétique de Narnia. Lewis n'avait pas des convictions chrétiennes qu'il a voulu distiller aux enfants sous une forme catéchétique.
Alors, il avait des convictions chrétiennes très fortes, ça c'est certain, mais il n'a pas voulu écrire Narnia comme un catéchisme. Et il l'a dit expressément, mais comme tout ce que les gens disent, on ne croit pas volontiers. En fait, si vous êtes un écrivain et que vous êtes chrétien, votre christianisme, à moins qu'il soit simplement dans un petit coin de votre esprit le dimanche matin, il va s'exprimer dans toute votre façon de voir la vie. Et donc va aussi s'exprimer dans les contes que vous raconterez. Peut-être éventuellement de façon que vous ne verrez pas vous-même. Voyez, c'est bien ce qui est arrivé à Tolkien. Tolkien a encore moins voulu, si on peut dire, faire une allégorie. Et pourtant, c'est plein de sens chrétien, son livre. Mais de même, Narnia, Lewis dit lui-même que il partait toujours, en tout cas dans ses œuvres d'imagination, d'images. Alors il a d'abord eu l'image du faune qui se promène dans la neige avec son parapluie. Un faune avec un parapluie, oui, ça fait. Et c'est vrai, c'est pas un mensonge, parce que moi j'ai retrouvé cette image jetée dans des notes écrites dans sa jeunesse. Donc c'est une vieille image. C'est comme dans d'autres livres, il reprend souvent des images qui restent en lui, puis tout d'un coup ça se met à bourgeonner, si vous voulez. Il dit aussi qu'il a rêvé beaucoup de lions à l'époque, et ça a donné le grand lion de Narnia. Et puis après,
ce lion qui s'appelle Aslan, et oui, que certaines personnes discernent comme étant une sorte de présence christique au sein de cette série de contes.
Mais je crois que c'est une présence christique. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lewis n'a pas voulu, il ne s'est pas dit, qu'est-ce que je pourrais prendre comme symbole du Christ? Je vais prendre un lion, et puis voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, il a fait, ce lion, il est venu, si vous voulez. Et ça, c'est ça qui se passe avec les créateurs, d'ailleurs, en général. Et peu à peu, il a tout organisé autour, il a organisé Narnia autour de lui. D'ailleurs, il a créé Narnia dans une des chroniques. C'est donc bien, d'une certaine façon, une présence du Christ. Mais ce n'est pas une présence a priori que Lewis aurait voulu, si vous voulez, en se disant « ça peut être que ce symbole-là, etc. » Je ne sais pas comment faire comprendre ça, mais je crois que c'est très important, parce que ça, c'est la différence entre quelque chose qui serait bien intentionné, si vous voulez, mais qui resterait extrêmement court, et qui d'ailleurs n'aurait pas, je crois, l'impact que ça a eu. Parce que si Aslan a un impact, c'est que c'est une présence du Christ, mais justement sous une forme vraiment nouvelle, vraiment spéciale à Narnia, si vous voulez.
Oui, parce que de manière assez surprenante quand même, parfois, cet Aslan est aux côtés de Dionysos.
Ah oui, dans une des chroniques, il y a...
C'est un peu curieux ça, quand même, on sent là un peu, disons, l'imagination assez exubérante de C.S. Lewis.
Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là, parce qu'il avait toute une conception du mythe, des mythes, y compris des mythes de la mythologie ancienne, etc. Disons que c'était des sortes de préfigurations ou d'attentes de la révélation. Et Dionysos, on le dit bien dans C'est dans le prince Caspien, hein, Dionysos tout seul serait assez inquiétant. Effectivement, c'est un dieu inquiétant. Mais Dionysos avec Aslan, c'est la fête, c'est la fécondité, c'est des choses qui sont finalement une expression de Dieu aussi.
Donc là, ce que vous vouliez dire, c'est que par rapport au mythe que C.S. Lewis crée, et notamment par rapport à ce mythe des chroniques de Narnia, il n'y a pas une rupture, ou il ne crée pas un mythe à côté d'autres qui exclurait d'autres mythes, mais c'est un mythe qui se veut un peu synthèse, tout comme le christianisme, à certains égards, pourrait être une synthèse des grands mythes de l'histoire occidentale.
Ah, mais c'est ce que croyait Lewis, il croyait que le christianisme était la réalisation, le sommet, si vous voulez, de toute une attente de l'humanité, c'est d'ailleurs très traditionnel, hein, attente qui s'était exprimée dans les mythes que les hommes ont inventés, et d'ailleurs, dit-il, que Dieu leur a peut-être envoyé un peu de lumière à travers ces mythes, même s'ils sont très mélangés.
Et là, par rapport justement à ce christianisme qui est au cœur de la vie de C.S. Lewis, eh bien, C.S. Lewis parlera d'un mythe vrai.
Oui, parce que c'est la raison pour laquelle il est devenu chrétien. Sa conversion était assez spéciale, parce qu'il est revenu peu à peu à une conception, il a d'abord cru en Dieu, et puis le christianisme le dit lui-même, mais ne faisait pas encore sens. C'est pourquoi une personne qui a vécu il y a 2000 ans, enfin, quel rapport ça? Et c'est Tolkien qui l'a aidé à voir qu'il aimait beaucoup les mythes quand ils étaient Odin, quand c'était toutes sortes de mythes non chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il ne reconnaissait pas la qualité mythique du christianisme? Alors ça, je sais que c'est difficile, parce que quand nous employons mythique, en général, nous voulons dire pas vrai. Mais pour Lewis et pour Tolkien, d'ailleurs, l'imagination bien conduite, et pas toute seule évidemment, mais l'imagination peut révéler le vrai. Et dans le mythe chrétien, enfin dans le récit chrétien plutôt, vous avez un côté mythique. D'ailleurs, vous le reconnaissez, ce schéma, le Dieu qui meurt et qui ressuscite, c'est pas spécifique au christianisme. Vous trouvez ça, on peut en trouver, faire des listes immenses, si vous voulez, d'exemples. Mais Tolkien a dit à Lewis, mais ça, une fois, c'est arrivé. Alors naturellement, on ne peut reconnaître ça que par la foi, hein, mais la foi consiste précisément à reconnaître que c'est arrivé une fois pour de vrai, si vous voulez. Mais que le mythe, tout en devenant fait, comme le dit Lewis, garde son caractère mythique, c'est-à-dire son caractère de récit significatif, enfin tout ce que Lewis entend par mythe.
Irène Fernandez, auteure d'un livre imposant sur C.S. Lewis, était votre invité, Serge Carrel. Comment s'intitule l'ouvrage qu'elle vient de publier ?
Alors, ce livre s'intitule « C.S. Lewis, mythe, raison ardente ». Et il vient de sortir du four, il est encore tout chaud, aux éditions Hatzolem à Genève.
Est-ce qu'il y a d'autres livres sur C.S. Lewis ou sur le monde de Narnia qui sont sortis de presse, j'imagine, à l'occasion de l'arrivée sur grand écran du film dont nous parlons toute cette semaine ?
Oui, alors on peut mentionner... parmi d'autres, hein, mais trois autres livres qui ont retenu particulièrement mon attention. Tout d'abord, un livre de Philippe Maxence aux Presses de la Renaissance, et ce livre est intitulé « Le monde de Narnia décrypté ». Vous avez aussi un autre livre de Colin Durier, intitulé « Au cœur de Narnia », et enfin un petit livre d'un théologien, Jean-Yves Lacoste, intitulé « Narnia, un monde théologique avec un point d'interrogation ».
Alors on peut trouver toutes ces références, toutes les références de ces livres sur notre site, espace2.ch/esprit. Demain, on vous retrouve, Serge, où est-ce que vous nous emmenez ?
Alors nous poursuivrons avec la philosophe parisienne Irène Fernandez pour parler de la théologie et du Dieu de C.S. Lewis.
Alors rendez-vous demain. Merci Serge. Demain, 16h30 pour une nouvelle édition d'À vue d'esprit. Celle-ci a été signée Marie-Claude Cudré à la réalisation et Michel Cocher au micro. Suite du programme d'Espace de maintenant, d'un air entendu.
L'Opéra de Lausanne accueille du 22 au 29 décembre La vie parisienne. Opéra bouffe de Jacques Offenbach dans une mise en scène de Jérôme Savary. Dardar vous invite le 22 décembre à midi à la FNAC de Lausanne pour une rencontre extraordinaire avec Jérôme Savary et les chanteurs de la vie parisienne dans une émission en direct et en public. Vous ne pouvez pas venir à la FNAC ? Retrouvez la vie parisienne le 31 décembre à 20h sur Espace 2.
espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.